Frères et sœurs, bonjour. Vous n'êtes pas trop fatigués? C'est pas trop long? Mettez-vous debout un petit peu. Mettez-vous debout. Est-ce que vous avez la force, frères et sœurs, d'être debout? Celui qui peut nous garder debout, il s'appelle? Et ce Jésus, il est où? Amen. Bien, maintenant que nous sommes debout, je vais vous lire un texte que vous pourrez contrôler chez vous. C'est le texte du prophète Ésaïe. Et dans ce texte du prophète Ésaïe, il y a un chant, comme la chorale que nous venons d'entendre, et je vais vous le lire. Écoutez bien. C'est Ésaïe, le prophète. Ésaïe 49, 13. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Merci Claude. Montagne, éclatez de cris de joie. Pourquoi ? Car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux, et nous disons
Amen.
Car l'Éternel console son peuple et a pitié des malheureux. C'est vrai ou pas?
Oui.
Si c'est vrai, vous dites
Amen.
Vous dites
Amen.
Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Non, c'est pour la circulation sanguine. Mes frères et sœurs, dans ce texte qui est court, je voudrais relever trois mots. Pas trop long, trois mots. Trois mots. Ces mots sont dans ce texte, au verset 13 du chapitre 49 d'Ésaïe. L'Éternel console son peuple. L'Éternel console son peuple. Et ce texte, lorsque nous le regardons attentivement, a trois choses à nous dire et à nous apporter, si vous le voulez bien, et je voudrais le partager avec vous. Le prophète dit, l'Éternel console son peuple. Il est tellement heureux, le prophète, Ésaïe. Il dit, ciel, réjouis-toi. Il se tourne vers la terre, il dit, et toi la terre, réjouis-toi. Il se tourne vers les hautes montagnes, il dit, allez les montagnes, tressaillez de joie. Pourquoi? Pourquoi? Car l'Éternel console son peuple. Vous ne trouvez pas que c'est un peu fort? Ciel, réjouis-toi. Terre, triomphe de joie. Montagne, tressaille de joie, pour une seule raison, Dieu console son peuple. Dieu console son peuple. Premièrement, cela nous apprend que Dieu a un peuple. Le monde est composé de peuples, mais Dieu a un peuple. Et ce peuple, il l'a constitué au travers de son Fils. Nous trouverons dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, verset 14, je crois, qu'il est écrit que Jésus-Christ est mort afin de donner sa vie pour créer un peuple zélé, engagé à servir le Dieu vivant et vrai. Alors, ce matin, question, chacun répond, est-ce que je fais partie du peuple de Dieu? Est-ce que je fais partie du peuple de Dieu? Vous en êtes sûr? Vous avez vos papiers? Des fois, la gendarmerie nationale nous arrête en disant « Vos papiers, s'il vous plaît ». Eh bien, nos papiers, nous ne les avons pas sur nous, mais il y a dans le ciel un registre sur lequel s'écrit « Livre de vie ». Et dans ce livre de vie, il y a nos noms. Et nous bénissons le Seigneur pour cette certitude que personne ne peut l'effacer. L'Éternel console son peuple. Son peuple. Mes frères et sœurs, arrêtons-nous sur cela. Il y a des peuples dans le monde et son peuple. On sait que, l'Écriture nous le dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Et pourtant, comment expliquer cette parole de Jésus dans l'Évangile de Jean? Je vais vous la lire. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous êtes d'accord là-dessus? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Dieu aime le monde. Et puis, Jésus rajoute que ceux qui aiment la parole de Dieu, qui aiment Jésus, Jésus nous dit que Dieu l'aime. Il y a comme s'il y avait un autre amour, un amour plus particulier, un amour profond entre ceux qui font partie du peuple de Dieu et le monde que Dieu aime d'ailleurs parce qu'il veut que tous soient sauvés. Mais ce matin, mes frères et sœurs, mesurons qu'il y a pour nous un amour particulier, un amour privé que le Seigneur veut révéler. Déjà, son amour, il a manifesté à la croix du calvaire, nous a bousculés, nous a fait pleurer, confesser nos péchés. Mais ce matin, il m'a chargé de vous dire qu'il a pour vous, pour nous tous, un amour surabondant. Vous le croyez ? Le Père vous aimera. Si quelqu'un garde ma parole, nous l'aimerons, dit Jésus, et nous ferons notre demeure chez lui. La Bible dit que Dieu est le sauveur de tous les hommes, bien sûr, et particulièrement de ceux qui croient. Dieu crée son peuple, et vous et moi, par la grâce de Dieu, nous en faisons partie. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que Jésus est mort pour créer un peuple vivant dans le monde d'aujourd'hui. Je vais vous lire ce que dit Paul dans l'Épître à Tite. Je vais vous lire. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, virgule, zélé pour les bonnes œuvres, dit ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise, et nous ajoutons, amen. Dieu s'est fait un peuple qui lui appartienne. Donc, ce matin, pouvons-nous dire, oui Seigneur, je t'appartiens. Oui Seigneur, je t'appartiens. Oh, comme le dit ce beau cantique des dernières fois, il dit, ô sécurité profonde, tu es à moi, je suis à toi. Et cette communion va faire de nous des gens vainqueurs et qui vont triompher. Alors donc, Dieu a son peuple. Deuxième question. Qu'est-ce que son peuple a besoin ? Quel est le besoin numéro un du peuple de Dieu qui est racheté, sauvé, pardonné, délivré ? Quel est le besoin du peuple de Dieu ? Ça va peut-être vous étonner. Moi, j'ai posé la question cette nuit au Seigneur. Quel est notre besoin ? Tu dis qu'on est ton peuple, mais quel est notre besoin ? C'est écrit. Allez, dites-moi. La foi, la sécurité, la délivrance. Ouh ! Alors, dans le fond. Pardon ? Oui ? Et encore ? Et encore ? Et encore ? Ouais, etc. Voilà, comme ça, tout le monde est d'accord. Eh bien, l'etc., je vais vous étonner, c'est ce mot-là, je le disais, Seigneur, ton peuple, qu'est-ce qu'il a besoin numéro un ? Et alors, ça m'a étonné de le lire. Vous voyez où je lis ? Ça va vous étonner, vous allez dire, oh là là, quelque chose ne va pas là. Car l'Éternel console son peuple. Ça veut dire que le besoin numéro un du peuple de Dieu, c'est d'être consolé. Comment ça ? Oui, vous allez voir. Le besoin numéro un que vous et moi, nous avons, frères et sœurs, dans le monde d'aujourd'hui, dans les situations que nous vivons, dans les nouvelles que nous entendons, dans les informations que nous recevons, notre besoin numéro un, dit Dieu, c'est d'être consolé. L'Éternel console son peuple. Oui, il est le Dieu qui nous délivre. Il l'a fait et il le fera encore. Oui, il est celui qui guérit nos corps malades. Il l'a fait et il fera encore. Oui, il est celui qui pourvoit à nos besoins. Mais il dit ici, il est celui qui console. Pourquoi ? Eh bien, pour la raison très simple. Le véritable évangile, mes frères et sœurs, c'est de bien comprendre ce que Jésus a dit. Quand il a enseigné l'évangile, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'a-t-il donné ? Bien. Il a invité les malades à trouver la guérison. L'a-t-il fait ? Il a invité les hommes et les femmes à être remplis du Saint-Esprit. L'a-t-il fait ? Ouais. Et pourtant, il est écrit ici, « Dieu console son peuple. » Donc c'est une bénédiction, la consolation de Dieu. Et ce texte m'apprend que Dieu ne va pas bénir s'il n'y a pas besoin qu'il y ait la bénédiction. Donc, s'il est écrit que Dieu console, c'est que nous avons tous, vous comme moi, moi comme vous, mes frères et sœurs, besoin de la consolation divine, car il nous est dit dans la Bible que notre Dieu, c'est le Dieu de toute... Bravo. Toute consolation. Et ce matin, y a-t-il parmi nous des frères et sœurs qui peuvent dire « j'ai besoin d'être consolé » ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire « j'ai déjà, depuis que je suis converti, été consolé au moins une fois ?» C'est oui, vous levez la main et vous dites « Amen !» Et malgré tout, on a encore besoin d'être consolé, chaque instant, chaque jour. Non pas de se faire remonter les bretelles, ni de d'être matraqué par la morale, mais d'être consolé par celui qui est le Dieu de toute consolation et qui va nous aider, vous allez le voir, à triompher dans les difficultés les plus grandes. Il a dit d'ailleurs, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc Jésus nous a promis la paix, le repos, et il nous a dit, mes brebis sont dans ma main et nul ne les ravira. Ça ne veut pas dire, et là nous serons tous d'accord, que depuis que nous sommes au Seigneur, nous n'avons plus de problème. Et ça, c'est une fausse évangélisation. Car Jésus a dit que le chemin qui mène au ciel, il n'est pas large, il est étroit. Hein, et que personne ne peut aller au ciel s'il ne prend pas le chemin étroit. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans l'Écriture? L'Éternel console. Mes frères et sœurs, reprenons les paroles de Jésus. Merci pour vous, parce que vous êtes parfaits. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, je comprends pas, je suis chrétien, je suis baptisé. D'accord. Baptisé d'eau, oui. Je suis fidèle, je viens à l'église, j'ai le Saint-Esprit, j'ai ceci, je donne ce que je peux. Et pourtant, oh, si vous saviez, dès qu'ils ouvrent la bouche, ces frères et sœurs-là, ils vous parlent. Vous avez une petite température. Disons, un petit 37,3. Une fois qu'ils vous ont parlé, vous faites 39,8. Ah oui. J'ai connu une sœur qui avait ce don-là. Elle allait visiter les malades et souvent je lui disais, vous n'y allez pas. Parce que quand elle rentrait dans une chambre d'un malade, un malade, je vous disais tout à l'heure, il avait 37 et quelque chose, quand elle sortait, ils avaient au moins 40 et 2 dixièmes. C'était toujours, quand la personne parlait, elle dit « Oh, mais moi, j'ai, oh, puis j'ai ceci, et puis j'ai cela. » Elle mettait tout ça dans le cœur de l'enfant de Dieu. Or, mes frères et sœurs, on n'est pas appelé à décourager, on est appelé à encourager les autres, à fortifier les autres, à donner de la paix aux autres, de la joie aux autres. Et si je raconte toujours ma vie et toutes mes misères, mais je vais assommer les autres, je vais les noyer, mais au contraire, je veux leur apporter la consolation de Dieu, parce qu'il nous console tous, et vous allez voir, sans exception. Jésus a dit, vous aurez... Vous n'aurez pas de problème dans le monde. Il n'a pas dit ça. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Quelle espérance. Quelle consolation. Vous aurez des problèmes. Jésus, on dira des choses sur vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, mes frères et sœurs, qu'on dise des choses sur vous? Et certains disent, oh, vous savez, il y a des choses qu'on dit, mais oui. Surtout derrière notre dos, il y a des choses qu'on dit. Jésus dit, on dira des choses. On vous traînera. On vous conduira. On vous accusera. Mais, comptez sur le Saint-Esprit qui, lui, vous dira ce qu'il faut dire quand il faut le dire. Oui, le Seigneur ne nous a pas caché que le peuple de Dieu, c'est un peuple persécuté, qui a des luttes et des combats, mais c'est un peuple toujours plus que vainqueur par celui qui l'a aimé. Et nous devons le comprendre et glorifier le Dieu vivant et vrai. Frères et sœurs, l'Écriture nous dit que des troubles, nous en avons partout et nous en aurons partout, même dans l'Église. Sauf ici, bien sûr, mais dans l'Église. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit « je vais vous dire ce que je pense ». En ce qui concerne ceux qui créent du trouble parmi nous, mes frères et sœurs, n'écoutons pas toutes ces voix. Et j'ai apprécié ce que disait le pasteur Gentil, il a tout à fait raison. Dans les temps que nous vivons, il faut être ferme et veillant sur tous ceux qui peuvent apporter du trouble sur la parole, sur leurs idées particulières, Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ce n'est pas conforme à l'Écriture. Or, la Bible nous dit que ce qui nous console, c'est les Écritures. S'il n'y a pas d'Écriture, notre consolation, elle est fausse. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 5, qu'il y a des troubles dans l'Église. Et l'apôtre Paul dira lui-même, « Mais j'ai été dans des prisons, j'ai eu des coups, j'ai été rejeté, j'ai été vu comme mort, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté. » Si vous êtes là ce matin, mes frères et sœurs, c'est que vous avez subsisté parce qu'il n'y a personne ici qui peut dire qu'il a toujours évité les coups. Vous avez pris des coups, vous recevez des coups, et pourtant, sur le coup, vous êtes là. Et vous rendez grâce à Dieu. Alors, allons beaucoup plus loin. Je voudrais vous dire que Dieu a un peuple, celui qui est racheté par le sang de Jésus, nous sommes d'accord. Ce peuple-là, il le console, et ce texte nous apprend, regardez, l'Éternel console son peuple. Est-ce que c'est au passé? Est-ce que c'est au futur? C'est au? C'est-à-dire qu'il est en train de le faire. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, notre Dieu, qui est le Dieu de toute consolation, veut consoler nos cœurs et nos pensées dans le nom de Jésus. Et il nous a donné des moyens. Il y a de nombreux moyens pour être découragé, mais il y a encore plus de moyens pour être encouragé. Le premier moyen que le Seigneur nous a donné pour nous consoler, eh bien, le premier moyen que Dieu nous a donné pour nous consoler, c'est ce livre-là. La Bible, la parole de Dieu, le gros livre, le grand livre, dans lequel se trouvent les promesses dont vous et moi nous avons besoin. Dieu a le plaisir de nous donner sa parole. Et on le sait, sa parole nous a donné la foi, sa parole nous a donné l'espérance, sa parole a séché nos larmes, et ce matin encore, il attire notre attention sur sa parole. Et j'aime cette expression de Romains 15, verset 4, où l'apôtre Paul dit « Tout ce dont nous avons besoin a été écrit d'avance. » Dieu est toujours en avance sur nous, parce que nous, on vit la seconde, alors que Dieu vit déjà dans l'éternité. Tout a été écrit d'avance pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Dieu nous a donné sa parole. Et sa parole, il y a ajouté un instructeur. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il nous parle. Il nous rappelle la parole. Non pas pour nous faire un discours à n'en plus finir, non. Mais quand la lumière de l'Esprit de Dieu allume la parole, on comprend. Je m'explique. La grande consolation, mes frères et sœurs, se trouve dans cette parole de Dieu qui nous apprend quelque chose de remarquable. Elle nous apprend ce que Jésus va dire à cette Samaritaine. Il va lui dire, « Femme, tu adores ce que tu ne connais pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. » Et tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Dieu est esprit. Tiens. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ah bon? Et Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où c'est plus sur cette montagne, ni dans ce temple que nous adorerons le Père. » Adorer Dieu, mes frères et sœurs, c'est ce que nous apporte la parole de Dieu, nous fait comprendre que notre Seigneur est partout, partout avec nous. Et qu'en tout lieu, et en toutes circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, il suffit de l'invoquer, il est là. Un exemple. L'Écriture nous montre, et ça fait du bien de le découvrir, que dans la nuit, vous arrivez de ne pas dormir. L'apôtre Paul, un jour, une nuit, a été béni par Dieu. Il y a eu une réunion formidable. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des réunions formidables? Avec un pasteur qui parle pas d'autre. Bon, bref. Réunion formidable. Oh, il était content. Et alors, il est rentré chez lui. Et puis, il a dû... Non, il ne pouvait pas le dire à sa femme, il n'avait pas. Mais enfin, il est rentré chez lui. Il a dit, oh, quelle belle réunion! Puis Dieu nous a parlé. Dieu m'a parlé, dit-il. Dans la nuit, le Seigneur Jésus lui a parlé d'aller à Rome. Vous vous rendez compte, Jésus qui vient parler à Paul dans sa chambre. Il est content. Mais le lendemain matin, après cette grande bénédiction, Il entend du bruit sous sa fenêtre. Il regarde et il trouve une bande de 40 chevelus et barbus qui est en train de crier « À mort! À mort !» Non, mais vous vous rendez compte de la transition ? La veille, Jésus lui parle à Rome et quelques instants après, les hommes crient « À mort! À mort! Nous aurons ta peau !» Il se trouve dans une situation difficile. Et Dieu, dans sa grâce, est intervenu parce que personne n'a pu le toucher et il est sorti vainqueur, c'est vrai ou pas ? Un autre exemple. Avec Silas, il est en prison ce jour-là. Il a les menottes. Il est en garde à vue, même plus que ça. Il est bien jeté dans le fond de la prison. Et ils sont battus, déchirés, ils n'ont plus de vêtements, ils ont été secoués. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient. Et à quel moment, mes frères et sœurs, les murs de la prison se sont mis à vibrer ? À quel moment les portes se sont-elles ouvertes ? À quel moment les chaînes sont-elles tombées ? À quel moment les prisonniers ont été libérés ? Au moment où Paul et Silas chantaient et louaient le nom de Jésus. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors si ça s'est passé en prison, ça peut se passer ce matin, au moment où vous allez louer le Seigneur, au moment où nous allons adorer le Seigneur, les chaînes peuvent tomber, les portes peuvent s'ouvrir, les prisonniers peuvent être libérés, car Jésus-Christ est le même, hier, éternellement. Oui, il est partout, aussi bien dans la prison que dans un bateau en pleine tempête, on l'a vu avec Jésus, n'est-ce pas, et les apôtres, on l'a vu avec l'apôtre Paul, mais même... Ça va peut-être vous faire sourire. On peut prier le Seigneur partout. Oui ? Même dans le ventre d'un poisson. Vous me direz, ça sent la foi de morue. La Bible nous parle d'un prophète. Il s'appelait Jonas. Qui a désobéi, il s'est retrouvé avalé par un grand poisson. Et il y a resté, il est resté quelques jours au frais, hein. 3 jours ? Oui. Vous croyez que c'est vrai, ça ? Vous croyez que c'est vrai ? Et un théologien m'a dit que, mais non, Moïse, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et vous connaissez ça, un poisson qui peut garder un être vivant pendant 3 jours ? Je lui dis oui. Et non seulement il garde vivant, mais il garde lucide, parce que le Jonas, il se met à prier. Mais ça n'existe pas ! Mais si, ça existe. Je lui ai dit, moi, je vais te donner... Je me rappelle, c'était un théologien... sympathique, mais il était un peu incrédule sur certaines choses. Je lui ai dit, mais écoute, moi je veux même de donner son nom. Je connais son nom. Vous voulez que je vous donne le nom du poisson ? Allez. Ouais, le nom du poisson, vous savez qui c'est ? Vous le voulez ? Vous l'avez ? C'est un omni, un objet maritime non identifiable. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper, hein. Dieu a créé peut-être ce poisson-là, mais ce qui est important, c'est que dans le poisson, il a prié dans le fond de la mer, et là-haut dans le ciel, Dieu l'a entendu. Oui, Dieu entend les prières, et c'est ce que Jésus va dire à cette femme de Samarie, c'est plus ni sur cette montagne, ni dans tel et tel lieu, Dieu est partout, et ce matin, il est là, chez vous, il est là, au travail, il est là, quand vous vous déplacez, il est là, et l'apôtre, David disait, j'ai constamment l'Éternel sous les yeux. Je voudrais aussi aller vite et souligner une autre vérité qui montre la grâce infinie du Dieu vivant et vrai, parce que des fois on vient au culte, et quand on sort du culte, ça vous arrive de dire, oh, ça m'a fait du bien. Regardez-moi. Ah, ça m'a fait du bien. Ah, il y a une, pas tout le culte, mais il y a une parole qui m'a fait du bien. Et j'ai le sentiment que Dieu m'a parlé. Est-ce que ça vous arrive ? Être heureux d'être venu en culte et d'avoir entendu une parole, ou un cantique, ou une strophe, ou un mot, ou une prière, mais un mot. Et ça a apporté de la paix dans notre cœur, parce que Dieu travaille toujours à nous conduire dans l'adoration, et c'est pour ça que nous sommes son peuple. Oui, Dieu a consolé son peuple, et Dieu ce matin console son peuple, et je voudrais attirer votre attention sur une troisième vérité. Nous avons la parole de Dieu, Nous avons le témoignage de l'Esprit en nous, mais nous avons encore un autre point pour être consolés. C'est le Saint-Esprit dans le sens, qui s'appelle le Consolateur. Et remarquez cette phrase magnifique, où il est écrit que nous recevons l'Esprit par lequel nous crions « Abba, Père ». Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes. Est-ce que vous le croyez vraiment? Mais mes frères et sœurs, c'est formidable. Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes des filles de Dieu. Ça veut dire que nous sommes des fils de Dieu. Êtes-vous d'accord? Avez-vous remarqué cette petite phrase où l'apôtre dit « Auquel des anges Dieu a-t-il dit « Tu es mon fils ?» Jamais Dieu employé cette expression pour dire à un ange « Tu es mon fils ». Il a employé cette expression « Tu es mon fils » pour une raison, une seule personne. Qui ? C'est Jésus. Les anges, l'Écriture nous dit, ce sont des esprits au service des saints. Mais le fils, c'est Jésus. Les anges ne sont pas des fils, ce sont des esprits. Et vous et moi, qui sommes-nous ce matin pour Dieu ? Des anges ? Des anges ? Plus qu'un ange, nous sommes des enfants. Nous sommes des fils et des filles. Est-ce que nous pouvons imaginer quel grand privilège le Seigneur nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ? Et nous le sommes. Je suis un enfant de Dieu. Petit, malade, dépressif, secoué, malheureux, mais quand même je suis un enfant de Dieu parce que le sang de Jésus m'a purifié et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je t'appartiens, Seigneur, et je suis à toi. Là, je crois que c'est David qui disait, tu as fait tellement de merveilles que le nombre est trop grand pour que je les raconte. Le Saint-Esprit qui nous éclaire sur la parole, c'est le même esprit, le Consolateur, qui remplit notre cœur de cette assurance, « Tu es mon fils, bien-aimé ». Et l'Écriture nous dit que ce privilège-là est immense. J'admire souvent, quand je lis les histoires des anges dans la Bible, l'ange Gabriel, c'est quand même quelqu'un, eh bien l'ange Gabriel, ce n'est pas un fils, c'est un esprit. Mais vous et moi, on se regarde, on dit « Par la grâce de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu ». Et ça, c'est l'immensité de l'amour de Dieu, du Dieu vivant et vrai. Et je voudrais terminer par cette quatrième image. Dieu nous console par sa parole. Dieu nous console par la révélation de sa parole. Il est partout. Dieu nous console par le témoignage de sa parole dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Il nous dit, tu es mon fils. Et puis, Dieu nous console, mes frères et sœurs, regardez-moi, par ce qui nous attend. Non, regardez pas votre montre, regardez-moi. Qu'est-ce qui nous attend ? Non, pas un homme vêtu de noir avec un... Non, avec non, pas un homme vêtu de noir avec un coffre, non. Qu'est-ce qui nous attend ? Un ciel qui s'ouvre. Oui ou non ? Il nous attend un ciel qui s'ouvre. Ça, c'est pas encore grand-chose. Mais ce qui nous attend, c'est que bientôt, mes frères et sœurs, quand nous serons là-haut, nous verrons un visage. Nous verrons un visage que nous n'avons pas encore vu. Nous verrons le visage de Jésus. Et tel qu'il est, tel nous serons. D'ailleurs, c'est tellement vrai que nous le disons, nous l'affirmons, nous le chantons. Vous croyez pas ? Vous voulez une preuve ? Voir mon Sauveur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Et tous les Français disent. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, pour quand ? Je serai semblable à toi. Que ceux qui croient que c'est vrai disent Amen. Oui, mes frères et sœurs, voilà ce qui nous attend. le visage de Jésus. Et puis, continuons. L'Écriture nous dit que quand nous serons dans le ciel, le Seigneur aura des couronnes. Une couronne, chacun recevra la couronne qui lui est destinée et que le Seigneur a choisie. C'est vrai ou c'est pas vrai? D'ailleurs, aussi, on va pas le chanter, mais c'est un vieux chant, on chantait dans les années 50, « À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. » Voilà ce qui m'attend. Une porte ouverte, le visage de Jésus, une couronne, et si je lis attentivement ma Bible, j'aperçois qu'aussi le Seigneur nous remettra des instruments de musique. Vous vous rendez compte? Harpe d'or, on jouera de la musique. Et mieux encore, il nous invitera dans une véritable chorale. Ah! Vous y croyez? On deviendra membre de la chorale céleste, et l'Écriture nous donne quelques paroles sur ce que nous chanterons. Et l'Écriture nous montre que la chorale sera céleste, le chœur sera céleste, l'orchestre sera céleste, et c'est pas tout! Qu'est-ce qu'on aura encore plus? Oh, mes frères et soeurs, non, mais c'est pas des histoires, qu'est-ce qu'on aura de plus? Alors, voyons, Jésus, ensuite, couronne, ensuite, de la musique, ensuite, oui, et ensuite, qu'est-ce que le Seigneur est parti nous préparer? Une propriété là-haut! Est-ce qu'il y en a qui le croient? Alors, voyez-vous, c'est ça qui nous console, c'est tout ce qui nous attend. Et alors, le gâteau sur la cerise, c'est reconnaître ceux qui étaient avec nous, et nous serons avec eux pour toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, consolez-vous par cette parole, on ne va pas devancer ceux qui sont morts, mais un signal donné à la voix d'un archange, tous ensemble, nous partirons et nous serons avec Jésus sur les airs, dans le ciel, alléluia, dans la maison qu'il nous a donnée, avec la musique qu'il nous a donnée, avec le visage du Sauveur qu'il nous a donné, à son nom soit toute la gloire. Voilà pourquoi il console. Et terminons par une conclusion. La cinquième, je ne vais pas la développer, mais je la signale. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui, maintenant, voudraient être sur la terre des imitateurs de Dieu? Est-ce qu'il y a des candidats imitateurs de Dieu? Oh, il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas de piège, mais il n'y a pas de piège à loin. Quels sont ceux qui veulent imiter Dieu? Ils élèvent les mains, ils ouvrent la bouche et ils disent « Alléluia !» Voici ce qu'ils ont. Bravo. Mes frères et sœurs, si tu veux imiter Dieu, approche-toi de quelqu'un qui pleure et essuie-lui les yeux. Mon frère, ma sœur, quand tu prends conscience de la souffrance de l'autre et que tu le consoles, tu ressembles à ton Père. Et ce que Dieu veut nous dire, il nous dit, faites-le. J'ai eu faim, m'avez donné à manger. J'ai eu soif, m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accepté. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Et certains diront, quand est-ce qu'on t'a vu faire ça, Seigneur? Et Jésus dira, chaque fois que vous avez fait cela, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'ayez fait. Si je veux ressembler à Dieu, que je console. Mes frères et sœurs, que dans l'assemblée, on cherche le contact, parce qu'on dit, le frère untel, la sœur untel, a toujours un mot de consolation. Ça fait du bien, et ça nous fait ressembler au Seigneur. Serviteurs, soyons des serviteurs, soyons des adorateurs, et soyons des consolateurs, dans le bon nom de Jésus. Amen.